Ça vaut le détour avec Luc Fortin.
Heureux de vous retrouver en ce jeudi 27 novembre en compagnie de... C'est quoi, c'est Jean-Sébastien qui est de l'autre côté? OK, Rémi est là. C'est Jean-Sébastien qui me parle, mais c'est Rémi qui est là. Essayez de comprendre quelque chose. Je pense que c'est de la schizophrénie qu'on appelle ça. Également, tiens, aux réseaux sociaux, c'est Claudia Benoît qui va vous lire et peut-être vous répondre si vous en voulez une réponse. Et sinon, ben, vous nous joignez dans le 514-282-1999 ou encore sans frais 1-800-361-0635. Le poste est le 220. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un musée en Estrie qui aime la nature, aime la sensibilisation, l'information et qui est accessible. Également, un site web pour trouver un logement accessible, un autre, mais celui-là est particulier. Stratégie de communication avec les enfants avec problèmes d'audition. Et tout de suite, on s'en va du côté de Lanaudière. Parler de ce que certains qualifient de parcours inspirant. Pascal Renault, qui est non-voyant, qui est instructeur de son école de... comment on appelle ça? Jiu-Jitsu, Pascal?
Oui, Jiu-Jitsu et de karaté.
Et vous êtes titulaire de cette école depuis combien de temps?
Okay. On a ouvert l'école en 1994. Dans le temps, je donnais des cours à Pointe-aux-Trembles. Puis par la suite, j'ai déménagé pour Repentigny.
Donc, 7 ans après votre accident, déjà, vous aviez votre école. Comment on a passé de l'un à l'autre? Bon, l'article que j'ai lu sur vous dit que la réadaptation a quand même pris un certain temps.
Oui. Ma réadaptation a commencé dans les années 1991-92.
Oh, pourquoi 4 ans? Pourquoi avoir attendu?
Mais c'est que suite à un accident, j'ai eu plusieurs autres problèmes, dont une trachéotomie, tout ça. J'ai eu plusieurs opérations. Puis, il y avait aussi... mon diagnostic comme tel final est arrivé un petit peu plus tard. Là. J'avais des opérations, j'ai été à Boston, tout ça. Au début, je voulais plus fêter pour essayer de retrouver la vue.
Ouais.
Puis quand tout ça n'a pas fonctionné. Mais là, c'est là que j'ai décidé de refaire ma vie, puis de relever d'autres défis.
Comment y arrive-t-on, Pascal? Comment lâcher prise et dire, OK, mon plan d'action était de retrouver ce que j'ai perdu. Maintenant, c'est de vivre avec ce que j'ai. Ça semble facile, ça semble le nécessaire, mais ce changement de paradigme-là n'est pas nécessairement automatique.
Comment faire? Je ne le sais pas. Mais pour moi, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, c'est peut-être un peu pour ça que ça a pris plus de temps avant de commencer la réadaptation. J'avais une idée en tête qui était de retrouver la vue. Puis je voulais avoir la conscience claire d'avoir tout essayé.
Ouais.
J'ai pris le temps. Puis la première année a plus été dans les hôpitaux et tout ça. Puis par la suite, a plus été au niveau recherche.
Chercher du monde qui pourrait m'aider. Donc vous étiez vraiment proactif.
Oui. Puis par la suite, moi, j'avais une grosse passion qui était les arts martiaux.
Oui. Alors, avant l'accident de voiture, là, les arts martiaux occupaient une place importante dans votre vie.
Ah oui, moi, j'avais commencé à l'âge de 7 ans, dans les années 79.
Mm-hmm.
78-79 que j'avais commencé.
Étiez-vous quand même déjà, disons, assez qualifié en 87?
Oui, j'avais une ceinture noire déjà que j'avais acquis à l'âge de 14-15 ans.
Ouais. Ben moi aussi, j'en ai une, là, je la porte aujourd'hui,
ouais. Mais
disons que je n'ai pas travaillé pour.
Ceux-là ont plus tendance à être style cuir, ils sont
ouais.
pas tissus.
Ouais.
C'est à cause des tissus que c'est plus dur.
Ouais. Mais en même temps, tiens, est-ce que c'est sûr qu'il y a un avantage de changer sa façon de travailler lorsqu'on a déjà acquis les bases et qu'on est bon? Mais est-ce que, parce que je disais que vous avez voulu quand même étudier pour apprendre comment enseigner avec vos limitations?
Mais c'est qu'au début, j'ai voulu le faire. Le vouloir, c'est bien, mais le réussir, c'est autre chose. Alors, comme la raison, j'ai dû me trouver des trucs. Au début, c'était par essai-erreur. Mais par la suite, j'ai compris ce qui me manquait. Puis là, quand j'ai refait le programme de réadaptation à Nazareth et Libère, là, j'ai vu encore plus de possibilités qui s'ouvrent à moi, puis que ce soit au niveau des cours d'orientation, mobilité, tout ça, ça m'a permis de me développer plus.
Parce que la biomécanique universitaire n'était pas une biomécanique adaptée. Il a fallu vous preniez les notions que vous avez reçues là et les adaptiez à votre main.
Oui, parce que moi, j'ai fait un bac en thérapie athlétique à l'Université Concordia. Quand je veux travailler, je travaille aussi comme un thérapeute sportif à la maison. J'aide les athlètes et tout ça, là, quand ils ont des blessures sportives et ainsi de suite. Puis, mon but, c'est ça, ma passion première était les arts martiaux. Puis chaque fois que j'avais des cours, je parlais à mes professeurs, je voulais comprendre en trois dimensions, dans l'espace, comment que ça fonctionnait, comment je pourrais aider. Puis la biomécanique, à ce point-là, m'a aidé beaucoup parce que on étudie beaucoup les angles et tout ça au niveau des joints, des différents joints du corps. Alors moi, par les épaules, par les hanches, j'ai réussi à trouver une façon de pouvoir être capable de corriger mes élèves sans les voir.
Ouais. Donc, en conversation avec Pascal Renaud, qui lui est instructeur de karaté de l'école Okano Mikata, du côté de Repentigny. Moi, lorsque j'étais ticu, Pascal, on ne voulait pas, mes parents voulaient que j'aille prendre des cours de karaté. On ne voulait pas parce qu'on parlait de coups et que j'aurais de la difficulté à les voir venir, ces coups-là. Pourquoi je ne suis pas capable de faire ce que vous êtes capable de faire et vous me dites que c'est plutôt des prises que des coups?
Okay, ben moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai... de base, jeune avant, c'était plus karaté qui était à la mode. Mais moi, justement, en adaptant ma méthode, j'avais l'option du judo ou j'avais l'option du jiu-jitsu.
Okay.
Et moi, j'ai préféré le jiu-jitsu. Car il se marie mieux au karaté, car en jiu-jitsu, on peut donner des coups et tout ça. Puis on permet le corps à corps.
Est-ce que c'est populaire chez les jeunes?
Très, très populaire. Ouais. Mais okay. C'est une belle méthode d'autodéfense. Puis moi, personnellement, surtout au niveau des jeunes, ce que j'aime du jiu-jitsu, c'est qu'on ne met pas l'emphase sur frapper l'autre. On met l'emphase sur parer et contrôler l'autre. Mm-hmm. Alors, c'est plus facile d'expliquer la non-violence si tu apprends à pas frapper que si le but, c'est de mettre l'autre hors combat le plus vite possible.
Je vous cite disant finalement que c'est une fois que vous avez reçu un coup, vous savez exactement comment votre adversaire est placé, donc vous êtes toujours un coup en arrière.
Oui, mais quand pour recevoir un coup, c'est pas que je reste là immobile à me faire frapper.
Viens-t'en, oui.
C'est que je bouge. C'est la personne, pour venir me toucher, doit s'avancer, doit faire quelque chose. Mm-hmm. Et moi, mais je vais me positionner dans un angle, d'une façon, pour que quand je ne recevrai pas un coup, genre immobile, après ça, je réagis. C'est surtout que je vais parer le coup, je vais essayer d'éviter. Puis je vais tout de suite fermer la distance pour être encore à corps. Les mêmes choses qui vont faire deux voyants. Mais moi, c'est ça, mon but, c'est le plus rapidement possible de fermer la distance entre moi et mon partenaire. Puis après ça, d'aller vers le dos, puis d'aller au sol, puis de progresser avec le combat.
Pascal, j'ai causé avec d'autres personnes qui vivaient des situations de limitation fonctionnelle et qui me disaient « j'ai beaucoup de difficultés à trouver des clients ». Entre autres, bon, une personne qui voulait lancer sa garderie. Ça a pris combien de temps pour que les parents vous confient leur petit bonhomme en se disant, oui, ils vont recevoir une formation aussi complète que si le gars était voyant?
Je pense que ça a commencé quand j'ai arrêté de m'en soucier.
Okay.
À un moment donné, au début, je me sentais toujours le besoin d'expliquer mon cas, d'expliquer que moi, je suis aveugle, mais j'ai une façon, j'ai ça. Puis quand je faisais ça, j'avais plus de problèmes. À un moment donné, je me suis tanné, j'ai dit, je vais faire ce que j'ai à faire. Les résultats parleront ou parleront pas. Si ça marche pas, je m'adapterai. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus vraiment eu de problème. Mais quand je m'en préoccupais, quand j'essayais de faire sûr que le monde comprenne, mais on dirait que je rencontrais plus de monde avec l'esprit fermé que l'esprit ouvert.
Ouais, ouais.
Mais encore aujourd'hui, je le sais. Pour moi, j'aurais jamais une école genre... Il faut toujours que je gagne ma reconnaissance.
Mm-hmm.
Ça, j'ai des commentaires plats, je vais toujours en avoir. Mais ça, si je ne suis pas prêt à accepter ça, je suis pas dans la bonne place.
Ouais.
Quand on décide de foncer et de faire quelque chose, mais ça vient avec le prix à payer.
Intéressant. Plusieurs, lorsqu'on vous parle, parlent de votre déficience visuelle. Moi, c'est drôle. Ce qui me préoccupe, c'est plutôt votre trachéo. Des sports de combat, lorsqu'on a subi une trachéotomie, est-ce que c'est contre-indiqué ou...
Oui. Bien, là, en plus, là, moi, présentement, je suis super heureux là, parce que j'ai dit trachéo, mais présentement, j'en ai plus. Depuis un an, là, on a réussi à m'enlever le tube que j'avais.
OK.
Puis avant, je dis trachéo, le mariété, c'est un tube que j'avais qu'on appelle un tube de Montgomery. Ça me limitait un peu au niveau cardio et tout ça. Mais c'était quand même un tube en plastique mou. Alors, je pouvais recevoir, mettons, un étranglement ou quelque chose. Ça m'empêchait pas là, de faire le combat. Où est-ce que ça m'empêchait? C'est au niveau performance. C'était plus difficile de respirer.
Ouais.
Mais là, j'ai été plus chanceux. Il y a eu un nouveau médecin à l'hôpital Notre-Dame. Puis on a réussi à m'enlever le tube là, l'an passé. J'ai encore une ouverture au niveau de la trachée. Mais plus de tube du tout, alors mon cardio s'améliore beaucoup. Puis si ça continue même, là, je vais même faire là, des compétitions ouvertes et tout ça là, cette année, au mois de mai. Tout ça.
Bon, les choses changent. Ouais. J'ai l'impression que tranquillement, les gens sont un petit peu plus au courant des possibilités, même si on travaille différemment avec une limitation. Mais au départ, là, lorsque vous étiez en réadapte, est-ce que vous vouliez continuer à combattre et est-ce qu'il y a des gens autour de vous ou bien dans le personnel médical qui disaient « Non, trouve-toi une autre passion comme le tir à l'arc? »
Mais à Nazareth ou Lubraire, on m'encourageait, on disait « Fais comme tu penses. » Eux ne le savaient pas, car le monde à qui je parlais ne connaissait pas les arts martiaux. Mais quand j'expliquais mes façons, ils trouvaient que ça avait du bon sens. Au début, au niveau des endroits où m'entraîner, ça, c'était plus difficile.
Ah oui, hein?
Ça y a beaucoup, beaucoup d'endroits, là. Mais ça, j'ai eu des difficultés partout, là. Maintenant, à un moment donné, je m'étais inscrit en haltérophilie. Moi, j'avais une certaine condition physique, j'avais un certain talent au niveau de force et tout ça. Puis, ça faisait 3 mois que je m'en suis encore, là. J'avais été très vexé de ça. Je m'entraînais dans un centre assez connu à Montréal, là, puis ça allait bien, ça. En tout cas, selon moi, ça allait bien. Ça faisait quasiment 3 mois. Pas tout à fait 3 mois, là, mais j'avais plus que 2 mois de fait.
Mmh.
Puis, à un moment donné, un directeur est rentré là, puis quand il m'a vu, ils ont pas voulu que je m'entraîne là, il dit que c'était dangereux, je pourrais tomber sur une barre, des choses comme ça, là, j'en ai eu plein.
Alors que vous étiez membre et déjà actif.
Oui, on m'avait accepté, wow. J'avais payé, puis, mais eux m'avaient pas vu. Mais quand ceux-là m'ont vu, là, ils ont eu peur que je me blesse et qu'ils soient responsables et tout ça.
Ouais.
Là, on parle des années 90, 91. Non, excusez, 92, avions.
Est-ce que, bon, pour une école comme la vôtre, j'imagine qu'il y a une police d'assurance au cas où il arrive des accidents, est-ce que ça vous coûte plus cher d'assurance parce que vous êtes non-voyant?
Non. Non parce
est-ce qu'ils le savent?
En plus,
ah oui, ils le savent?
Oui.
OK.
Puis, c'est pas ça, au niveau du sport, c'est tout est fait. Tout était prudent. Là. C'est pas un sport extrême. Là. C'est pas le UFC. C'est une méthode d'autodéfense. Alors, c'est pas fait. Même quand il y a des combats, là, c'est pas des combats vraiment violents. Là. C'est pas le danger de blessure. Il est beaucoup moins qu'un simple match, je sais pas moi, de soccer ou de hockey. Mm-hmm. J'ai mes enfants qui font d'autres sports aussi. Tout ça, là, puis, là, c'est comme pratique, c'est très, très sécuritaire. Là.
Vous acceptez les jeunes à partir de quel âge?
Moi, j'enseigne à partir de 7 ans. Mais j'ai aussi mon épouse qui m'aide là-dedans. Elle enseigne à partir de 3 ans.
Ben voyons donc.
Ouais.
OK. Fait que si jamais vous discutez moi, là, dans la maison, ça doit être particulier comme conflit.
Chez nous, on est toute une famille d'arts martiaux. Là. Moi, j'ai 4 enfants. J'ai 2 fils. J'ai 2 filles, un garçon de ceinture noire. Puis j'ai mon plus jeune là, qui est en route pour ça.
OK. Par hasard, est-ce qu'il y a des jeunes qui ont une limitation, qui profitent de vos techniques?
J'en ai déjà eu, mais manque d'intérêt, tout ça, mais j'en ai déjà eu. Puis ce qui est bizarre, c'est que moi, au début, j'avais parti d'école pour des personnes aveugles. Mais les élèves que j'ai eus ont toujours été plus voyants qu'aveugles.
Oui, mais c'est parce que vous êtes à Repentigny aussi.
Oui, aussi, oui.
Oui, fait que ça fait loin.
Oui, un peu, peut-être.
Ben merci beaucoup, Pascal Renault. Je rappelle que l'école s'appelle Okano Mikata. Il y avait un lien avec la vision, là.
Ouais, en japonais, ça veut dire une autre vision.
Une autre vision. Ouais. Voilà. C'est bien trouvé. Okano Mikata, c'est du côté de Repentigny. Le site de l'école de Pascal sur le Ça vaut le détour du côté de canalm.org. Lâchez pas. Merci beaucoup d'avoir pris ces quelques minutes, Pascal Renault.
Merci beaucoup.
Un petit peu de musique, celle de Mademoiselle Fizz. Et ensuite, ben, on va s'intéresser à ce site, Mon Toit, Mon Choix. Site web pour le choix d'une résidence.
Kiss me out of the bearded barley nightly. Beside the green, green grass. Swing, swing, swing the spinning step. You wear the shoes and I will wear that dress. Oh, kiss me beneath the milky twilight. Lead me out on the moonlit floor. Lift your open hand. Strike up the band and make the firefly. Then silver moon sparkling. So kiss me.
Fizz sur Canal M. Ben oui, je vous parlais d'un site web pour aider à trouver une résidence, un logis. Et pour en parler, Anne-Marie Cloutier, qui est conseillère en organisation de services à l'Association des établissements en santé et services sociaux, la Caisse AQE2S. Également, Nicole Beaudoin, qui est conseillère aux affaires cliniques de l'Association des établissements en réadaptation physique du Québec, l'AERDPQ. Mesdames, merci beaucoup d'être là.
Bonjour. Ça nous fait plaisir.
C'est pas la première fois que j'entends parler du désir de faire, disons, que ce soit un répertoire, que ce soit une façon d'afficher son lieu, son logement, la différence entre monchoixmontoit.com et peut-être d'autres outils du genre.
Mais le site qu'on a développé, c'est vraiment un site pour aider des gens à justement développer des ressources résidentielles. Parce qu'on sait que pour les personnes qui ont une déficience physique, c'est pas évident de se trouver un logement, que ce soit une déficience sensorielle ou une déficience motrice. L'accès au logement n'est pas si évident que ça. Fait que le site a vraiment pour but d'aider les gens à développer des ressources qui répondront à l'ensemble des besoins des personnes.
Donc, quand vous dites développer, c'est moi, je suis propriétaire. Qu'est-ce que je devrais faire si je veux profiter de cette clientèle-là?
En fait, c'est plus que ça, Anne-Marie. Je vous dirais. Oui. Alors, en fait, le défi qu'on avait de créer un outil comme celui-là, c'est d'abord de voir ce qui se passe actuellement au Québec en termes de situation de logement entre le domicile et l'hébergement de soins de longue durée. Alors, déjà ça, de faire un inventaire, c'est large, en effet. Ouais. Et donc, c'était une initiative qui a été portée beaucoup par les deux associations, à la fois la ERDPQ et la Caisse, comme vous le disiez tantôt. Et ça a créé, ça a fait une émulsion, je vous dirais, bien intéressante, parce qu'on s'est aussi associé aux organismes communautaires, ce qui était une nouveauté, je vous dirais, de travailler en intersectoriel déjà au départ en construisant ce projet-là.
Mais est-ce que ça veut dire que vous avez trouvé quelqu'un pour entrer en contact avec toutes les associations régionales intéressées par ce truc dans toutes les régions du Québec?
C'est-à-dire qu'on a engagé une chargée de projet, Mme Lajoie, qui, elle, on a mis un sondage en ligne qu'on a fait cheminer auprès des organismes communautaires, auprès des établissements de réadaptation, auprès des hôpitaux, auprès des C3S, justement pour aller chercher l'information sur ce qui était existant au Québec. Mmh,
ouais.
Fait qu'on est allé rejoindre comme ça, là, vraiment plusieurs organismes communautaires, des organismes aussi indépendants qui avaient inventé ou développé quelque chose. C'est comme ça qu'on a pu les rejoindre.
Est-ce qu'il y a, parce que j'avoue, je n'y suis pas allé, mais est-ce qu'il y a à la fois un répertoire et des outils de sensibilisation, de vente, si on veut, pour que la personne qui veut s'adapter... Parce que je regarde ici, bon, il est question de domicile avec service de soutien et d'accompagnement aux activités. Il est question de domicile avec des services de soutien et d'accompagnement aux activités de la vie quotidienne et domestique. En tout temps, donc selon la sévérité, selon le besoin, c'est différents types de logis.
C'est-à-dire qu'on a essayé d'inventorier qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qui devrait exister. Parce que, dans le fond, entre le domicile et le CHSLD, on l'a dit tantôt, l'éventail est très large, mais il existe des modèles, bon, on les appelle les options résidentielles sur notre site, mais dans ces options résidentielles-là, on en nomme 9. Il y a de ces options-là qui ne sont pas vraiment existantes ou qui sont très peu développées, mais qu'on trouvait que ça, si on les développait de façon plus importante, il apporterait une niche qui n'est pas assez bien exploitée pour répondre aux besoins. Fait que dans le fond, c'est ça, notre site, il identifie ces options-là et il identifie celles qui auraient avantage à être créées ou développées de façon plus importante. Mais il donne des outils aussi pour en développer des nouvelles. Parce que dans sur le site, il y a ce qu'on appelle un des boutons et sur un planificateur de projet qui permet de passer de la conception au financement ou à la réalisation de ces ressources-là. Il y a
c'est comme les Sims. Les jeux vidéo, les jeux d'ordinateur, de simulation. Bon, il y en a qui construisent des fermes, des villes. Là, c'est comment finalement mettre sur pied un vrai... une vraie, que ce soit coopérative ou logement, ou donc vous donner des outils. Qu'est-ce qu'un domicile ou milieu de vie avec des services éducatifs? C'est quoi, c'est garderie?
Non, pas du tout.
c'est
des services d'éducateurs spécialisés qui accompagnent des personnes qui ont certaines difficultés au niveau de leur organisation de quotidien, que ce soit pour pouvoir répondre à du courrier, gérer un budget. Fait que le soutien éducatif par des éducateurs spécialisés, c'est à peu près pas développé au Québec comme service à domicile. Il en existe à Montréal, c'est le seul endroit, et puis en Estrie, mais il n'y en a pas d'autres dans d'autres régions du Québec. Fait qu'on trouve que c'est une solution porteuse qui permet aux gens de rester à domicile plus longtemps tout en ayant ce soutien-là.
Je crois reconnaître dans chacun des 9 types de logements ou de résidences que vous proposez quand même des lieux où il y a toujours une forme ou une autre de service. Est-ce qu'il y a le simple logement, mais qui est accessible, le simple logement privé?
Non, parce que notre objectif était vraiment d'aller justement entre le domicile, mais à partir du moment où la personne a besoin d'un service.
Mm-hmm. C'est ça.
Fait qu'on n'aborde pas du tout l'accessibilité juste du logement accessible. Là,
oui. Puis si vous me permettez, quand on a fait le sondage au niveau de la province de Québec, évidemment, on a reçu beaucoup de matériel. Mais pour faire des choix judicieux, on s'était donné comme équipe de travail des principes directeurs. Puis ça, pour moi, c'est important de le rappeler parce que ce qu'on souhaitait mettre en lumière, c'était des milieux de vie qui sont justement adaptés et qui favorisent aussi l'inclusion et la participation sociale. Parce que c'est beaucoup reproché, évidemment, puis on le comprend, les personnes à mobilité réduite jeunes, des fois par défaut, se retrouvent dans des milieux d'hébergement de soins de longue durée. Ouais. Et évidemment, ce n'est pas leur endroit de prédilection pour se dire intégré dans une communauté, puis se dire également que c'est une façon d'avoir une participation sociale.
Avez-vous des solutions pour eux?
C'est justement ça. L'objet de ce grand travail-là, de recension et de collaboration, et ces options-là que Nicole présentait tantôt rapidement, c'est des alternatives qui sont réalisables, qui sont faisables.
On est encore dans le réalisable et non réalisé. Là. Il n'y a pas de solution miracle encore pour les jeunes qui se retrouvent dans cette situation-là. Est-ce qu'il y a peut-être sur le site également des programmes de subvention ou des indications sur comment être assisté dans la transformation de ce que l'on souhaite réaliser?
Oui. Une des grandes forces de ce site-là, c'est justement de fournir des références, des outils et des liens utiles pour les personnes. Fait que dans cette section-là du site, on a vraiment là l'ensemble des outils très concrets. Comment on gère le personnel dans une ressource? Mm-hmm. Comment on organise un horaire de travail? Comment on doit faire notre budget? Qu'est-ce qu'on doit prendre en considération pour dire que c'est un budget avec lequel on va pouvoir fonctionner puis donner des services à des personnes qui ont besoin de services? Puis, il y a toute une section aussi sur des liens utiles, que ce soit sur le financement, les adaptations de domicile, même les services, les aides techniques. Parce que comme on s'adresse à des personnes qui ont une déficience, on a cru utile d'ajouter quand même certains liens qui sont plus larges que le besoin spécifique d'habitation, mais qui s'adressent aux personnes qui ont une déficience.
On s'intéresse au site Mon Choix, Mon Toit, toit.com. Et je me demandais, Anne-Marie Cloutier, vous travaillez du côté de la caisse. Nicole Beaudoin, vous travaillez avec l'ARDPQ. Quelles ont été, disons, les difficultés pour l'arrimage? En plus, vous avez ajouté des partenaires communautaires. C'est jamais simple. Chacun ses méthodes, chacun ses objectifs. C'est normal.
Oui, bien écoutez, ça a été un magnifique défi. Un défi dans le sens que ça nous a permis des échanges francs, puis je vous dirais, c'est ça notre fierté, mm-hmm. je pense, avec le produit dont on parle aujourd'hui, c'est que ça a fait des consensus. Ça nous a obligés à faire des consensus et à réfléchir à des façons simples de parler avec le grand public.
Ouais.
Parce que la force de ce site-là, c'est un site qui n'est pas fait pour le réseau de la santé et des services sociaux uniquement.
Vous avez travaillé là-dessus combien de temps?
Presque deux ans.
Quand même.
Presque deux ans.
Mon choix, faut pas que je m'aille. Oui, c'est ça. Monchoixmontoit.com. Merci beaucoup, mesdames.
Ça nous a fait plaisir.
Au revoir.
On s'arrête quelques secondes et de l'autre côté, on s'intéresse entre autres à la chasse et la pêche, mais vous allez comprendre, c'est vraiment pas de plein air dont il est question.
Inclusif.
Ça vaut le détour.
Deuxième partie déjà. Ben oui, je regarde, je me dis, voyons donc, il reste déjà juste trois personnes à qui converser aujourd'hui, dont deux qui sont avec moi autour de la table, Suzanne Plante, qui est audiologiste, et Marianne Paquette. On dit Paquette ou Paquet?
Paquet.
OK, parce que si on a une qui l'écrit de la même façon puis qui dit Paquette, puis elle y tient. Vous êtes ergothérapeute mm-hmm. de l'Institut Raymond Devoir pour les deux. Et on s'intéresse aujourd'hui, je le disais, à la chasse et la pêche, mais il n'est pas question de plein air, pas du tout. Il est plutôt question de trouver une façon de communiquer avec des jeunes qui ont des difficultés d'audition. J'ai vu à un moment donné 6-12, j'ai vu 9-12, donc je vais vous demander de me situer l'âge des jeunes.
En fait, je vous dirais, c'est 9-12.
Suzanne,
oui, c'est des jeunes d'âge scolaire.
Nous, ça...
Donc, 6 ans, ça aurait pu être d'âge scolaire aussi?
Oui, effectivement. En fait, nous, le Chassé-Pêche, c'est un programme pour apprendre aux jeunes qui ont des difficultés de communication à utiliser des stratégies quand ils se retrouvent en panne, quand ils n'ont pas compris quelque chose. Donc, au lieu de rester passif, au lieu de faire semblant d'avoir compris, bien, dans le fond, de poser un geste pour réparer ce bris de communication-là.
Marianne Paquet, pourquoi Chassé-Pêche?
Bien, très bonne question. En fait, c'est pas parce qu'on amène nos jeunes dans leur Antide pour passer une fin de semaine de chasse et pêche, mais c'est bien parce qu'on veut chasser le bruit autour des enfants qui ont des difficultés dans le bruit et pêcher des stratégies de communication. Donc, des bons outils, comme le disait Suzanne, pour devenir plus proactifs dans leur communication plutôt que de ne rien faire ou de faire semblant qu'ils ont compris.
Mais chasser le bruit, quelqu'un dirait, il revient au galop. Je veux dire, on ne peut pas chasser le bruit à moins de se mettre des bouchons.
Non, non, et surtout, on ne promouvoit pas du tout l'utilisation de bouchons. En fait, des choses qu'on peut faire, on peut s'éloigner du bruit. On peut, si j'essaie d'avoir une conversation avec un ami et que la télévision est allumée dans le salon, bien, je peux l'éteindre. Mm-hmm. Donc, je peux être un peu plus conscient de ce qui se passe dans mon environnement et essayer de le contrôler d'une façon à ce que la communication soit facilitée.
Ça me paraît évident qu'un 9 à 12 ans va avoir le réflexe d'éteindre la télé, non?
Non,
je suis optimiste?
Non. Oui, vous êtes très optimiste. Okay. En fait, les jeunes qu'on a aussi, souvent, bon, c'est des jeunes qui sont en difficulté, hein? C'est des jeunes qui présentent un trouble de traitement auditif qui va aussi avoir des impacts au niveau des apprentissages, donc ils ont des difficultés d'apprentissage, et souvent, ils sont habitués à ce qu'on fasse pour eux à leur place. Donc, au niveau de l'autonomie, ils sont souvent, en tout cas, pas très...
Ça veut dire qu'on parle aux parents aussi, là, parce que s'ils sont habitués, c'est sûrement parce qu'on les a habitués.
Souvent, on a des parents aussi qui vont être un peu protecteurs. Mm-hmm. Hein? Ils vont vouloir aider leur enfant qui a des difficultés. Ils vont tellement vouloir les aider que des fois, effectivement, ils vont un peu faire pour eux. Okay. Fait qu'on travaille avec les deux. On travaille avec les parents. On travaille avec les enfants dans notre groupe qui s'appelle Chassé-Pêche. Et puis, on travaille aussi, bien sûr, avec tous les autres intervenants, là, donc les professeurs et les gens qui côtoient l'enfant qui a des difficultés.
C'est ça, ça paraît banal, hein? On se dit, ben voyons, c'est tellement facile de dire « j'ai pas compris ». Mais quand un enfant a des difficultés de communication, qu'il a de la difficulté à s'exprimer, qu'il est habitué de pas se faire comprendre, ben son réflexe naturel, ça va être de faire semblant ou en tout cas de se taire puis de faire comme si rien n'était.
Ouais. Suzanne Plante, Marianne Paquet, les deux de l'IRD, l'Institut Raymond Devoir. Mm-hmm. Une est audiologiste, l'autre est ergothérapeute. Et si vous voulez gagner un T-shirt, vous appelez, vous dites qui est qui. La différence entre un enfant qui a des implants cochléaires, un enfant qui est peut-être surdité complète au niveau de la façon d'administrer ce chassé-pêche?
Bien, nous, le programme...
Suzanne?
Nous, on travaille avec des jeunes qui ont un trouble de traitement auditif. Donc, ils n'ont pas une surdité.
Okay.
Leur audition, leur sensibilité auditive, elle est normale. C'est plus au niveau du traitement de l'information auditive que ça bug. OK? Donc, l'analyse se fait mal et le message est incompris. Les difficultés d'écoute dans le bruit sont souvent accrues. Mm. Donc, quand on a une surdité, les difficultés de communication vont venir d'une baisse de la sensibilité auditive. Et évidemment, plus la surdité est importante, plus les difficultés sont grandes en général. Et pour une personne qui est sourde ou malentendante, on va en tout cas recommander des appareils auditifs, un implant cochléaire, ce qui n'est pas le cas du tout chez un jeune qui a un trouble de traitement auditif.
Marianne, il y a, mis à part les résultats peut-être à la baisse, d'autres signes qui peuvent guider les parents vers un besoin de... trouver des solutions pour le jeune, parce que j'imagine que le jeune lui-même, s'il a toujours été dans cette situation-là, ne réalise pas pourquoi il est dans cette situation-là.
En fait, c'est que l'âge où on vise pour le groupe 9-12 ans, c'est que justement, il commence à être un petit peu plus conscient de ses difficultés, qu'il n'est pas pareil que les autres, que oui, il y a des résultats peut-être à la baisse à l'école ou que ça lui demande vraiment des gros efforts pour pouvoir réussir. Donc, il commence à être plus conscient. Fait que de lui-même, il va nous le nommer quand il vient nous voir à l'IRD, qu'il aimerait pouvoir travailler certains éléments, qu'il aimerait pouvoir être plus proactif quand il ne comprend pas quelque chose dans le bruit, que ce soit à l'école ou dans ses loisirs. Parce que ce n'est pas seulement à l'école, là, c'est aussi dans ses loisirs au quotidien, là, à la natation, au hockey, que c'est difficile pour lui de comprendre. Fait que lui-même, il va vouloir finalement trouver des moyens. Puis de toute manière, si lui ne veut pas... progresser ou apprendre, bien, ça ne sert à rien qu'on essaye de l'introduire dans le groupe.
Ouais. C'est intéressant, par contre, parce qu'effectivement, selon le contexte, les trucs ne sont pas les mêmes. Tu ne peux pas éteindre la télé à la piscine.
Non.
Souvent, les piscines, s'il y a un endroit, bien, piscine et aréna, là, s'il y a un endroit, ben, en fait, deux dans ce cas-ci, qui sont difficiles à cause de l'écho, c'est bien des endroits comme ceux-là. Et que tu te déplaces à peu près n'importe où, si tu es dans l'eau, tu ne vas pas sortir, aller dans le vestiaire, jaser, retourner dans l'eau. Quels sont les trucs?
Bien, on en montre plusieurs aux enfants, là, quand il y a du bruit, donc de s'approcher de la personne qui nous parle, de s'éloigner de la source de bruit. S'il y a plein d'amis qui sont en train de faire un cours de natation juste à côté, mais qu'on veut comprendre notre professeur, bien, on va peut-être s'éloigner des jeunes qui sont dans un certain côté de la piscine pour s'approcher du professeur. Donc, on va s'éloigner de la source de bruit. Mm-hmm. On va aussi demander de répéter. Hein, comme Suzanne le disait, montrer aux enfants que la première chose, c'est de dire qu'on n'a pas compris. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut spécifier? Peux-tu répéter? Peux-tu parler plus lentement aussi?
Regarder la personne qui parle. Hein, tout ce qui est contact visuel et utilisation, là, dans le fond, de la lecture labiale, des expressions, des gestes, ça, c'est quelque chose aussi qu'on va beaucoup enseigner à nos jeunes.
Oui, souvent, ils sont... qu'il n'y ait pas trop d'eau dans les yeux.
Non, effectivement. puis aussi, une espèce d'affirmation de soi là, qu'on essaie de développer chez eux pour qu'ils ne soient pas gênés de dire à un entraîneur, par exemple, ben moi, quand il y a du bruit, j'entends rien, je comprends rien. Donc, est-ce que je peux me rapprocher de vous? Est-ce que vous pouvez me répéter les consignes? Est-ce qu'on peut y aller plus lentement? Donc, de ne pas être gêné de demander ce qui nous aide, dans le fond.
Oui. Mais ça, c'est la caractéristique la plus difficile à atteindre dans tout ce que vous évoquez, là.
Exactement.
En fait, c'est la base. Une fois que ça, qu'on a travaillé avec nos jeunes, parce que Chasse et pêche, ça vient d'un groupe qu'on monte depuis 2007 à l'IRD. Et puis, on a produit un livre qui s'appelle Chasse et pêche parce que plusieurs personnes voulaient avoir l'information. Mais dans ce groupe-là, on travaille donc à ce que les enfants gagnent confiance à travers plein d'activités, puis on enseigne 10 stratégies de base au niveau de la communication. C'est sûr que nous, on le fait surtout avec des jeunes qui ont un trouble de traitement auditif, mais on pense que Chasse et pêche pourrait aussi aider plusieurs autres enfants qui ont des troubles de communication de façon générale.
Ouais.
Que ce soit une surdité, que ce soit des difficultés d'attention, que ce soit un trouble de langage, vraiment, là, les enfants pourraient en profiter davantage.
Pourquoi, mesdames, un livre plutôt qu'un site web avec des petits... des petits sketchs? Oui, un jour, OK.
Oui, effectivement.
Parce que c'est-tu vraiment plus coûteux un site web? Un livre, l'édition, faut l'envoyer à travers le Québec en plusieurs exemplaires.
Bien, nous, en fait, on a eu la chance d'avoir une subvention de la Fondation Surdité et Communication de l'IRD qui nous a permis de produire le livre et de rendre le matériel disponible pour d'autres intervenants qui voudraient reproduire le groupe dans leur milieu. Donc, ce groupe-là peut être refait par d'autres intervenants dans d'autres centres de réadaptation. Ça peut être fait par des enseignants à l'école. Ça peut être fait par des orthopédagogues à l'école aussi. Donc, le but, c'est vraiment là, d'amener cette espèce d'enseignement des stratégies de communication-là au plus de monde possible.
Vous avez tout à fait le droit de dire non, mais est-ce qu'un guide comme celui-là, ben, c'est-à-dire adapté, là, mais est-ce que lorsqu'on vieillit, lorsqu'on a travaillé peut-être en usine ou dans des lieux où finalement l'oreille a été lourdement sollicitée pour une bonne période de la vie, il n'y aurait pas matière à travailler comme ça? Ou justement, parce qu'on a vieilli, parce que c'est graduel, les gens le font au fur et à mesure qu'ils sont en trouble d'audition?
Non, ça se fait pas naturellement.
Non? OK.
À l'Institut d'ailleurs, au programme aîné, au programme adulte, il y a des intervenants qui vont aider les personnes adultes, les personnes aînées à justement maîtriser davantage les stratégies de communication. Et tantôt, quand je parlais d'affirmation de soi, ça, ben c'est valable là, pour n'importe qui, à n'importe quel âge. Hein. C'est pas parce qu'on a 55 ans que c'est plus facile que lorsqu'on en a 10.
Dire qu'on n'a pas compris.
Exactement. Il y a déjà, je vous dirais, du matériel thérapeutique qui est disponible pour les personnes, pour les adultes. Ce qui est peut-être un peu plus novateur au niveau de Chasse et pêche, c'est qu'à notre connaissance, il n'y avait rien de ce type-là qui était mise en marché pour les enfants. Là.
Ouais.
Donc, dans le fond, dans le livre, toutes les activités qu'on fait avec les jeunes pour justement leur faire pratiquer les stratégies, tout ça, c'est disponible dans le manuel. Donc, on essaie vraiment là, d'outiller les personnes qui voudraient reprendre ce contenu-là pour qu'elles puissent le faire le plus facilement possible.
Chasse et pêche, une publication sur les stratégies de communication pour les enfants de 9 à 12 ans. Ensemble, apprenons à chasser le bruit et à pêcher les bonnes stratégies. Bon, on commande ça à l'IRD?
Oui, exactement.
Ouais, okay.
Sur le site Internet.
Vous êtes d'accord. L'audiologiste, c'est celle qui fait l'examen, qui parle de l'étendue des ravages, mais l'ergothérapeute a fait quoi?
C'est une bonne question que tout le monde nous pose en général. On en a parlé, ces jeunes-là qu'on voit souvent, ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Donc, on veut travailler à les rendre plus autonomes dans leurs activités de la vie quotidienne, que ce soit en utilisant leur stratégie de communication, que ce soit au niveau de leur organisation au quotidien. Les jeunes TTA ont souvent des difficultés qu'on voit au niveau de l'organisation, au niveau de leur niveau d'éveil, au niveau de bilatéral, que ce soit apprendre à faire du vélo, apprendre à attacher des chaussures. Il y a vraiment plein de choses, mais dans notre groupe, on va vraiment axer sur l'autonomie dans l'utilisation de leur stratégie de communication dans toutes leurs activités de la vie quotidienne, que ce soit à la maison, à l'école ou dans les loisirs.
Vous l'avez peut-être dit, puis ça m'a échappé. Si c'est le cas, je suis désolé, mais quel est le lien avec, supposons, faire le vélo ou marcher droit et la difficulté?
En fait, on n'a pas de recherche sur ça, mais qu'est-ce qu'on a remarqué en clinique, c'est que les jeunes qui ont un trouble de traitement auditif souvent avaient des difficultés qui étaient associées donc au niveau de la motricité ou au niveau sensoriel, d'où le travail de l'ergothérapeute. Et on travaille de façon conjointe, Suzanne et moi, depuis longtemps, ce qui nous a permis là, de créer Chasse et pêche. Ouais.
En fait, le trouble de traitement auditif, c'est une atteinte neurologique. Hein? Donc, c'est au niveau de certaines zones du cerveau là, mm-hmm. qu'il y a une dysfonction. Et en général, ben il y a au niveau du cerveau, les différentes régions se touchent, communiquent entre elles. Donc, il n'est pas rare quand un jeune a une atteinte spécifique au plan neurologique qu'on voit là, des symptômes dans d'autres modalités. Là. C'est assez fréquent, je vous dirais.
Donc, ce n'est pas que l'équilibre. Ça peut aller au-delà de l'équilibre dans...
Oui, la coordination, l'autonomie, tout ça. Puis en fait, Suzanne parle des atteintes neurologiques puis du fait que ça a des impacts à plusieurs niveaux. Puis c'est ça qui fait, je pense, la force à l'IRD, c'est qu'on travaille en équipe interdisciplinaire. Là, vous avez une ergo puis une audio, mais on a une équipe très riche, là, psychologue, travailleur social, neuropsy, psychoéducateur, orthophoniste. On travaille vraiment ensemble pour essayer d'aider les enfants à être le plus autonome au quotidien.
Un message retenu et payé par l'Institut Raymond Devoir. Merci beaucoup, beaucoup, Marianne Paquet.
Ben, merci à vous.
C'est
merci.
Elle qui était... Attends, je dis Marianne Paquet, puis c'est Suzanne Plant qui répond. Elles font qu'un. Marianne Paquet, qui est ergothérapeute, Suzanne Plant, qui est audiologiste du côté de l'Institut Raymond Devoir. Chasse et pêche, donc une publication sur les stratégies de communication pour les enfants de 9 à 12 ans. Ensemble, apprenons à chasser le bruit et à pêcher de bonnes stratégies. Merci d'être venu nous en parler. Et comme on le disait, de toute façon, bon, sur Ça vaut le détour, vous allez avoir le lien, mais sinon, vous allez sur le site de l'IRD. Et si ça vous intéresse, surtout si vous êtes de l'extérieur de la région de Montréal, c'est le genre de truc qui, enfin, je veux dire, des fois, quand la montagne vient pas à nous, il faut aller à elle. Mais là, semble-t-il que si on demande aux facteurs, la montagne pourrait venir à vous. On écoute Isabelle Boulay. Ensuite, on s'intéresse à un musée qui nous informe sur les bien-nature.
Je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma main te cherche dans sa balance. Un beau dimanche sur Saint-Laurent. Toutes les odeurs sont là tout le temps. Les langues sont un joli bordel, si loin de la tour de Babel. Moi, c'est ta voix que je veux entendre. Mon amour, tu me manques. C'est fin octobre, début novembre. Ma ville s'endort en ton absence. Mais dis-moi, quand reviendras-tu? Fou rire sans toi, c'est peine perdue. T'es rare comme une étoile filante. Je fais pas de vœux, j'ai pris une chance. Je garde ton odeur dans la chambre. Mon amour, tu me manques.
ciel est bas. Termine vite et reviens-moi. Du faire les nœuds que j'ai au ventre. Mon amour, tu me manques. Le ciel est rose et bleu lavande. Seul dans la foule de Montréal, je marche, je cours sur Mont-Royal. Les arbres ont perdu leurs habits. Les merles bleus ferment leur nid. Chemin de terre, bonne cadence. Mon amour, tu me manques.
Vous avez reconnu Isabelle Boulay. Bonjour, Fanny Bluteau.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien.
Vous êtes directrice du département d'éducation des services à la clientèle du musée Nature et des sciences de Sherbrooke. On vous parle parce que, entre autres, le musée est accessible. Donc, tous, ayez l'oreille attentive si vous aimez la nature et si vous êtes de passage en Estrie. On nous dit que, entre autres, bon, en 2002, c'est en 2002 que vous avez déménagé?
Oui, exactement. En 2002, on a ouvert le nouveau musée, le nouveau bâtiment.
Ça, est-ce que c'est le musée qui était sur Wellington Sud?
Sur Marquette.
Sur Marquette,
on
OK.
On logeait dans la tour. On était situé dans le même bâtiment que le séminaire de Sherbrooke. Okay. Donc, ça s'appelait le musée du séminaire de Sherbrooke sur la rue Marquette, mais à deux pas de la rue Wellington.
On dit que c'est le premier musée au Québec à être certifié qualité tourisme par le ministère du Tourisme. Ça veut dire quoi, ça?
Ça veut dire que, bon, on avait la chance de construire à partir d'une ancienne usine de textile, de construire un musée avec aux normes d'aujourd'hui, aux normes pour protéger nos collections, mais aussi aux normes pour pouvoir recevoir la clientèle d'une manière vraiment là, très, très, très accessible. On sait que notre clientèle est très famille, donc on a tout revu pour donner le plus d'accessibilité à notre nouveau musée. Parce qu'on sait qu'au musée du séminaire, bon, c'était pas fait au départ pour être un musée. Il y avait beaucoup d'étages à monter, l'ascenseur minuscule, bon, bref.
C'était souvent derrière des vitrées également, là, des comptoirs vitrés, si je me souviens bien.
Exactement, ouais. C'est ça. Donc là, maintenant, on s'est dit, hey, là, on a tellement souffert, on donne l'accessibilité à 100%. Donc, on s'était assis.
OK, c'était pour les employés parce que vous aviez souffert de monter les escaliers.
Non, pas du tout. Okay, c'était notre clientèle. Parce qu'on recevait des groupes aussi. Alors, quand l'autobus touristique, gros autobus qui débarque, puis là, il faut leur faire monter, soit avec une petite ascenseur qui prend 4 personnes à la fois, ou sinon 6 étages. Avec la chaleur, c'était, il n'y avait pas d'air contrôlé, ce qu'on appelle l'air climatisé. Alors, c'était pas des conditions excellentes pour notre clientèle. Donc, en construisant le nouveau musée, on a pu se permettre beaucoup de réflexions, d'aller chercher des ressources aussi pour nous aider, pour que ça soit vraiment très confortable, très accessible, puis pour pouvoir aux normes aussi des collections, pour pouvoir protéger nos collections sciences naturelles, parce que nos collections sciences naturelles, il ne faut pas oublier que c'est de l'organique. Donc, les variations de température ou d'humidité abîment beaucoup nos collections. Donc, on a pu jouer sur tous les volets, tous les paliers. Puis, en même temps, il y avait cette nouvelle accréditation-là qui était lancée. Donc, on a adhéré au programme expérimental tout en construisant le musée. Bien, on a fait ça, que ça a pu donner qu'on a vraiment respecté toutes les normes qu'ils demandaient.
Et c'est correct de dire oui. Est-ce que vous l'avez fait parce que vous étiez un peu obligé par des codes du bâtiment ou par l'octroi d'une subvention quelconque?
Pas du tout.
Non.
Pas du tout, pas du tout. C'était tout au contraire, on n'avait pas de sous là, pour faire ça. Là. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment, tu sais, moi, quand je me déplaçais, puis tout mon temps, puis tout le temps de l'équipe, puis tout ça, c'était le musée qui avait pris par lui-même. Ben, regarde, ça sera important, ça va être bénéfique pour nous. Puis, non, c'était vraiment pas... C'est nous qui avons pris la décision, mais on n'a vraiment pas regretté.
Mis à part les avancées architecturaux, quelles autres, que ce soit des activités ou des façons de faire, quelles autres méthodes avez-vous disons, intégrer pour que le musée soit accessible?
Mais on a fait, il y avait un volet justement dans cette certification-là qui était un volet politique d'accueil et de service à l'égard de la clientèle, à l'égard des contraintes ou des besoins particuliers. Donc, ça touchait aussi à nos familles. Ça touchait aussi à différentes personnes avec différentes contraintes, des limitations fonctionnelles. Donc, ça, ça nous a beaucoup aidé pour construire soit nos activités ou construire, c'est ça, différentes infrastructures pour cette clientèle-là. C'est que cette partie-là a été comme importante aussi.
Donnez-moi un exemple, peut-être, de visite ou de visites que ces groupes-là peuvent faire et comment ils peuvent justement peut-être mieux bénéficier de leur visite.
Je vais y aller peut-être au lieu de groupe, je vais y aller avec les individus, mais ça s'applique aussi au groupe. Exemple, bon, on a une pièce qui est aménagée qu'on appelait le secrétariat des bénévoles, mais on sait que cette pièce-là, c'est une belle pièce à fenestrer qui mène sur les... On voit les gorges derrière Magog, une belle pièce. Puis on s'est dit, pourquoi pas donner une deuxième vocation et en faire une petite salle où ce que, bon, les gens peuvent aller se reposer s'ils ont un malaise. Un enfant qui est malade peut aller se reposer aussi. Une maman qui veut allaiter plus tranquille, bon, on peut... Donc, on donnait cet accès-là à nos visiteurs. Autre chose, exemple, dans les vestiaires, on a mis accessibilité. Il y avait des fauteuils roulants, il y avait des pousse-pousse. On s'est procuré ça, puis on a mis cet accès-là gratuit. Donc, ceux qui en ont besoin, ils en prennent gratuitement. C'était des exemples de petites choses là, qu'on a fait attention dans des salles de bain, bon, des petits bancs pour les lavabos ou sinon toutes les abreuvoirs ont différentes hauteurs aussi pour satisfaire encore là le plus de gens possible. C'est ce genre de choses là que.
Mais dans le transfert de connaissances, est-ce que on a réussi peut-être à trouver une façon de transférer ces connaissances-là avec une population qui vit avec une déficience intellectuelle ou avez-vous des audioguides pour les personnes handicapées visuelles?
Oui. Présentement, c'est ça, dans l'exposition permanente, on a des tablettes électroniques. Puis les tablettes électroniques nous donnent le choix. Soit qu'on peut avoir du son ou soit que c'est seulement par image ou par texte aussi. Donc, les gens ont le choix. Donc, ça en est un exemple. Dans les différentes expositions, on a la chance de construire nous-mêmes. Nous, on fabrique des expositions qui sont présentées ici au musée et qui partent en tournée à travers le Canada. Donc, quand on construit une exposition, on a la chance de dire, regardez, souvent, on mise beaucoup sur l'objet 3D qu'on peut toucher, qu'on peut expérimenter.
Ouais.
Alors ça, c'est important. C'est comme vous disiez là, avec le musée du séminaire, c'est pas seulement derrière une vitre.
Ouais. Fanny Bluteau, qui est directrice du département d'éducation des services à la clientèle du musée Nature et des sciences. Il me semble qu'il me manque un mot. C'est-tu vraiment...
Le musée de nature et des sciences
de nature et des sciences de Sherbrooke.
Oui, c'est ça.
Je calcule, là, vous avez plus de 120 ans, disons entre 120 et 130. Mm-hmm. Vous savez probablement le chiffre exact.
On a plus de 130 ans d'existence.
Okay.
Ici au musée, c'est depuis qu'on a ouvert le musée à la fin 2002.
Fanny, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que vous êtes le plus vieux musée du genre au Québec, à savoir de nature et de sciences combinées? Parce que là, on est rendu fin 19e. Là.
Oui, exactement. C'est pour ça aussi que les gens, quand vous allez visiter l'exposition permanente, des fois, il faut s'attendre que nos spécimens de collection, non, ce ne sont pas des spécimens. Des fois, on voit qu'ils ont du vécu. On leur fait attention, puis tout ça. Mais c'est ça qui fait la valeur de la collection.
Je trouve que c'est une belle façon de vendre des affaires maganées, ça.
Mais c'est exemple, la tourte. La tourte, c'est un oiseau qui a complètement disparu de notre planète.
C'est
mais
vrai.
On a un beau couple de tourtes que les gens peuvent admirer, puis il n'y a pas de vitre devant, là. Alors, on est comme proche du spécimen.
Ouais.
Ça, c'est ça qui fait la
particularité.
La particularité.
Ouais. OK.
Ouais.
Est-ce qu'il y en a d'autres objets du genre qui, justement, sont peut-être aujourd'hui méconnus ou très, très rares, mais que...
On en a plusieurs. Puis justement, on a un parcours à l'aide de notre tablette électronique. C'est le parcours comme du conservateur, ça touche plus à l'aspect de nos réserves. Puis ça, c'est plein d'anecdotes. Mmh. Comment on a, exemple, bon, acquéri ces fameuses tourtes-là, le cougar, on a des petites histoires, on a des anecdotes, parce que ça fait 120 ans, ouais, là, 130 ans, on monte en arrière, il y a longtemps. C'est que le conservateur puis toute l'équipe de production, l'équipe d'exposition a vraiment travaillé très fort pour mettre du piquant dans ce parcours-là. Puis c'est super intéressant parce qu'à nos salles, là, on voit les petits secrets du musée.
Ouais. Y a-t-il encore des cougars au Québec?
Ça, c'est
je parle pas de la femme âgée, mais vraiment du quadrupède. Là.
Les cougars n'ont pas disparu, là, mais là, c'est encore... je pense que les biologistes travaillent encore sur ça. Là, pour il y en a qui disent, bon, on a des indices, mais c'est dans l'actualité, disons.
OK, mais c'est plus sérieux que le monstre du Loch Ness, là.
Ah oui.
OK, donc il risque d'y en avoir, mais la dernière fois qu'on l'a vu, on ne le sait pas.
Non.
Ça ressemble à ça. Les heures d'ouverture chez vous?
Les heures d'ouverture, en saison régulière, c'est ouvert du mercredi au dimanche, de 10h à 5h. Durant le temps des fêtes, bien, c'est deux semaines ouvertes, 7 jours sur 7. Et l'été, bien sûr, en période estivale, c'est ouvert 7 jours sur 7 aussi.
Bon, il y a la vignette d'accompagnement qui est acceptée.
Oui, exactement. Puis ça, c'est très, 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 c'est bien apprécié, ça. Alors ça, c'est quelque chose qu'on est bien fiers. Notre équipe est formée aussi.
Sinon, le coût d'entrée régulier?
Pardon?
Le coût d'entrée régulier?
Alors, pour les moins de 3 ans, c'est gratuit. Pour les enfants jusqu'à 17 ans, c'est 9 $. Puis pour les adultes, c'est 13 $. Mais on a un beau tarif famille aussi, deux adultes, deux enfants à 39 $. Puis les enfants additionnels, on rajoute 2 $ de plus. Alors, c'est quand même très accessible.
Merci beaucoup, beaucoup, Fanny Bluteau. Vous avez un beau
merci
sourire.
Merci à vous.
Merci également à Rémi, qu'on va retrouver pour Accès libre. J'espère que vous y serez.